Capi Service. Le magazine de la vie au quotidien est à votre service. Tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 10h05 à 11h sur Radio Capi.
D'écouter le magazine au Capi Service.
Le magazine de la vie au quotidien. Je l'ai annoncé tout à l'heure qu'aujourd'hui nous parlons de l'accès à l'eau potable. Comment assurer l'accès à l'eau potable à un plus grand nombre? On en parle aujourd'hui dans cette émission avec Dr Valentin Kassanganaï, chef du bureau eau et point focal, projet centre de santé, assaini à la direction nationale de l'hygiène. Bien, on va le retrouver tout de suite d'ailleurs en RDC. Comme je le disais tout à l'heure dans l'introduction, l'accès à l'eau potable demeure difficile pour plusieurs ménages. La population recourt à l'eau des sources, des rivières et du fleuve pour la consommation et pour les activités ménagères. Et pourtant, la consommation de l'eau non traitée expose la population à des risques énormes. Alors comment, qu'est-ce qu'il faut faire pour assurer l'accès à un plus grand nombre à l'eau potable? On en parle dans cette émission avec Dr Valentin Kassanganaï. Dr Valentin, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous êtes chef de bureau eau et point focal du projet au projet Centre de santé assaini à la direction nationale de l'hygiène. Nous parlons de l'eau potable. D'abord, c'est quoi l'eau potable, docteur?
Non, c'est au fait une eau potable, c'est au fait une eau qui, de manière après sa consommation, n'affecte pas la santé. En fait, c'est un peu une définition plus courte pour la population.
Une eau bien traitée, si on peut le dire.
Bien
ainsi.
Entendu.
Ouais. Alors, pourquoi bon nombre de Congolais n'ont pas accès à l'eau potable? Et quels sont les pourcentages, disons? Par rapport à ceux-là qui ont accès à l'eau potable aujourd'hui.
Vous savez que les dernières enquêtes datent de 2013-2014. Ce sont des enquêtes EDES. En fait, ce sont les enquêtes qui donnent un pourcentage, une moyenne de 50% à une échelle nationale, mais aussi au niveau beaucoup plus urbain, c'est une moyenne de 80%.
80% des personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable.
Non, ceux qui ont accès à l'eau potable.
À l'eau potable.
Oui, dans les milieux urbains, mais aussi 37% pour le milieu rural.
Voilà, 80% dans les zones urbaines,
oui.
Et 37% dans un milieu rural.
Oui.
Alors, quelles sont les raisons qui font qu'il y a une partie de la population qui n'a pas toujours accès à l'eau potable?
Oui, mais effectivement, merci monsieur le journaliste. Lorsque je dis par exemple 80% milieu urbain, ça donne l'impression que les gens, effectivement, et la grande partie a accès à l'eau potable.
Oui, c'est ça. C'est la question que je me posais aussi.
Oui, non. C'est question seulement de lire entre les lignes. Vous allez réaliser qu'environ plus de 60% de la population vit en milieu rural. Et déjà, lorsque nous disons que les enquêtes EDES donnent 37%, ça suppose qu'une grande majorité, au fait, de la population n'a pas accès, au fait, à l'eau potable. C'est un problème, vous avez vu. Au fait, votre question, c'est de savoir...
Voilà, c'était de savoir combien des gens ont accès à l'eau potable et combien n'ont pas accès.
Oui.
Alors, quelles sont les conséquences quand on n'a pas accès à l'eau potable et puis on doit recourir à l'eau des rivières, à l'eau du fleuve pour la consommation? Qu'est-ce que cela entraîne comme conséquence, docteur?
Monsieur le journaliste, les conséquences sont d'abord innombrables. C'est en passant du point de vue social, économique, attention, ça peut être même des conséquences politiques. Imaginez-vous que lorsque, commençons d'abord par les conséquences sociales, vous avez vu que le fait que la population, la grande majorité n'a pas accès à l'eau potable, la tendance de s'éloigner davantage de leur ménage et pour aller chercher de l'eau, ça a un problème. Ça veut dire qu'une maman qui vend ses cacahuètes, mais il doit prendre 3 heures pour aller chercher de l'eau.
Oui.
C'est un problème, vous avez vu. Parce qu'à ce moment-là, il ne sait pas aller vendre. À ce moment-là, il ne sait pas assurer effectivement l'éducation. Ça veut dire qu'il ne sait pas dire à quel moment les enfants vont aller à l'école. Il faut préparer pour les enfants. Ça pose un problème. Vous avez vu, il y a un problème de temps gaspillé. Il y a c'est comme je l'ai dit, il y a un temps gaspillé parce qu'on doit prendre beaucoup de temps pour aller chercher de l'eau. Et on ne sait pas aller vendre. ça suppose qu'il y a, la faim, vous avez vu, mm-hmm. avec toutes les conséquences que vous connaissez.
Et il y a également, on parle des maladies d'origine hydrique, on ne consomme pas une eau qui, on consomme une eau qui n'est pas potable.
Oui, oh.
Ne vous ça expose à de nombreuses maladies.
À de nombreuses maladies. Quand je dis sociale, la santé des dents, vous avez vu. Vous avez, il y a beaucoup de maladies. Aujourd'hui, on parle de choléra.
Lesquelles, par exemple, choléra, oui.
Le choléra aujourd'hui, on peut, tout ce qu'on peut faire, et nous devons savoir qu'aujourd'hui, le choléra, c'est effectivement, parmi les causes, c'est aussi lié au fait au manque d'accès à l'eau potable, vous avez vu. Le choléra aujourd'hui, ça tue beaucoup de personnes, sont au risque de faire la maladie. Ils sont aujourd'hui, la plupart sont en train de faire la maladie. C'est une conséquence. Quand quelqu'un meurt, il faut l'enterrer. Vous avez vu, c'est un responsable d'une famille, les enfants, vous avez vu aujourd'hui les chèques, vous avez vu. Donc les conséquences sont innombrables, ce sont les fièvres typhoïdes, ce sont les ascaridioses, c'est beaucoup de choses au fait.
Bien, merci à tous les internautes, hein, les auditeurs qui nous ont écrit, les internautes qui nous ont écrit sur la page Facebook du magazine Okapi Service. Mon collègue Al-Sopra nous écrit de la ville de Lubumbashi, voilà. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit ceci, ici, dans la province du Katanga, les gens ne pensent même pas qu'il existe des robinets. Le peuple utilise une eau bizarre qu'elle appelle eau des Sichimi. La maladie qui domine, c'est toujours la typhoïde. Tout ça parce que le gouvernement ne veille pas aux besoins de la population. C'est ce qu'a nous dit Moukolé depuis la ville de Lubumbashi. Est-ce qu'on peut dire que l'eau qui n'est pas potable peut aussi causer cette maladie-là, la typhoïde?
Oui, la fièvre typhoïde, c'est l'un des maillons dans la chaîne de maladies d'origine hydrique, vous avez vu. Et lorsqu'il n'y a pas accès, il n'y a pas seulement la fièvre typhoïde, j'ai parlé du choléra, je parlais des ascarides, quoi, en fait, de tout ce qu'il y a comme ascaridiose, ankylostomose, tout ça, lorsque l'eau n'est pas traitée, c'est une eau qui contient non seulement de bactéries, il y a du virus, il y a tout ce qu'il y a comme protozoaire, ainsi de suite, ça veut dire que ce sont des germes pathogènes, qui sont capables et susceptibles de causer et beaucoup plus de maladies. Et donc il a raison, mais aussi il faut dire que la pénurie en eau, comme nous l'avons dit, et se situe à deux niveaux, vous avez vu, niveau conjoncturel, mais aussi niveau structurel. Mais la population ne voit pas, il y a ce qu'on appelle, nous, en hydrologie, nous avons, au niveau de la Direction nationale de l'hygiène, nous avons développé ce que nous appelons les PAFIS. Au fait, ce sont des petites actions faisables, mais importantes. Il ne suffit pas seulement de dire, parce que la régie des eaux ne donne pas de l'eau, mais il y a des petites méthodes pour traiter cette eau, vous avez vu.
Voilà. Donc, je reviens à vous, le temps de lire la réaction de Patrick Toumba, ou à Kankonde, depuis la ville de Kananga. Il nous dit, ici à Kananga par exemple, la population consomme l'eau des puits, pardon, l'eau des puits à défaut, c'est l'eau des pluies. Hein, comme cette saison de pluie s'annonce déjà, la régie des eaux nous fournit rarement de l'eau potable. Une autre chose, c'est que les purifiants tels que l'aquatab, pur et autres, ne circulent plus sur le marché et la population ne sait plus où mettre, ne sait plus à quel sens se vouer. Qu'est-ce que vous pouvez dire à Patrick Toumba depuis Kananga?
Oui, merci beaucoup. Le problème de l'eau, c'est un vrai problème, non seulement à Kananga, c'est au fait, et partout, nous avons donné les statistiques de l'EDES 2013-2014 qui donne pour 37% d'accès en milieu rural, vous avez vu. Non, au fait, c'est question de dire, est-ce qu'il faut-il traiter seulement l'eau avec l'aquatab? Je pense que oui, mais non aussi, en même temps, parce qu'il y a d'autres actions qui peuvent mettre en œuvre pour, au fait, rendre une eau potable, c'est au fait, bouillir l'eau, c'est simple, vous avez vu. Donc, on ne peut pas quand même dire qu'on n'a pas...
Le simple fait de bouillir de l'eau la rend potable, c'est ce que vous voulez dire.
Mais si l'eau, je suis en train de dire, au fait, le fait de bouillir de l'eau peut, au fait, contribuer, au fait, à l'anéantissement, au fait, de germes pathogènes. Mais à supposer qu'en même temps qu'il y a une forte turbidité de l'eau, ça veut dire que lorsque vous voyez l'eau, il y a un peu de particules faisant ce que nous on appelle le mouvement brunier. Ce sont des particules en mouvement dans l'eau, ainsi de suite. Il faut commencer par, au fait, essayer un peu de tamiser l'eau. Vous avez vu, un abysse propre, ainsi de suite, peut servir de tamis. On peut essayer un peu d'écarter d'écarter, je m'excuse, toutes les impuretés, et puis après cela on peut avoir une eau à la limite claire et puis acceptable, on peut la bouillir, et puis il faut pas seulement attendre le chlore, il faut pas seulement attendre l'aquatab, c'est ainsi de suite. Ça veut dire que
les purifiants,
les purifiants bien entendu en général. Donc le fait de bouillir l'eau, c'est aussi en fait une des méthodes très très simples qui ne coûte pas trop d'argent pour consommer une eau quand même potable.
D'accord. Bernard nous appelle des Manono, Wesley de Kananga et Norbert de Kindu. Bernard, bonjour, et qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Bonjour, M. Jody, Daniel Kachamé, à notre invité.
On vous écoute, Bernard.
Ok, avant de donner mes questions à poser à notre invité, je vais vous donner un peu les témoignages. C'est tel que ici, chez nous, à Manono. M. Jody, si vous venez, vous verrez que c'est un grand défilé, surtout à 16h, 15h, 17h. Nos mamans se donnent partout, partout au coin pour chercher de l'eau à boire. Donc, l'eau qui n'est même pas bien traitée, l'eau depuis, mais on souffre toujours. Et si vous retardez, sinon vous allez manquer de l'eau jusqu'à demain, vous le verrez peut-être à 11h. Donc, moi, ma question que je vais poser à notre invité. Ici, on nous avait financé l'argent, c'était en 2014. Le gouvernement national avait financé pour construire une usine d'eau. Mais jusque-là, ça n'a pas encore arrivé. On attend toujours, on construit, mais ça n'arrive pas à aboutir. Est-ce que l'eau des pompes, si l'invité a des éclaircissements, l'eau des pompes, ça a quel impact? Cela est bien traité ou non? Et quelles conséquences qui nous attendent, nous, peuples congolais,
oui,
qui ont souffert des années et des années?
Oui, Bernard. Bernard, oui. Qu'est-ce que vous appelez l'eau des pompes?
L'eau des pompes, c'est ce qui concerne, vient de fabriquer ici des moteurs pompes, on met des chlores et vous puisez comme ça.
D'accord, merci. L'invité va répondre tout à l'heure. Oui, une autre question.
Si notre invité peut nous donner un peu combien de maladies on peut succomber dans des télés. Et moi, pour finir avec son pourcentage, moi je pense que c'est 80% des Congolais qui manquent de l'eau potable. Si l'invité les a contredits, peut-être il vit à Kinshasa, il n'a jamais arrivé à Manon, voir comment les gens souffrent. Voilà mes questions là, je dis, je vous remercie.
Bien. Wesley Louboya de Kananga, bonjour. Quelle est votre préoccupation?
Bonjour Jody, bonjour à l'invité, à tous les auditeurs de la radio de la paix.
On vous écoute.
Je suis dans la ville de Kananga. Personnellement, je m'en vais vous dire que la ville de Kananga a 5 communes, parmi lesquelles l'unique ville ne fait que servir ou desservir la population en eau potable que quand il y a une autorité numéro 1 qui a atterri à Kananga. Donc tous les jours ici, les gens ne sont pas servis en eau potable, c'est-à-dire la régie des eaux ne fonctionne pas. Donc la plus grande question qu'on se pose, pourquoi aussi longtemps que nous avons un gouvernement provincial qui peut accélérer les choses de manière à ce que les gens soient desservis en eau potable. Chose grave, l'une de vos consoeurs a rendu un reportage sur les antennes de la radio Capu, disant que la plupart de la population de Kassa Central recourt à l'eau de puisage. Et je dois dire, vous savez, actuellement, le taux de la fièvre typhoïde ici est inexprimable. Là, je vous rassure, moi-même que vous parlez, je suis victime de cette maladie-là. Pourquoi? Parce que l'eau que nous consommons est tellement mauvaise et très mauvaise. Or, par définition, notre invité nous a dit que l'eau est potable que quand elle est incolore, insipide et inodore. Nous l'avons bien suivi, c'est très très bien. Ce sont là les caractéristiques d'une eau potable. Mais ici chez nous, est-ce que nous nous rendons compte de cette caractéristique ou de toutes ces caractéristiques? La question maintenant que je pose à l'invité est de savoir.
Oui.
Que peut-on faire? Parce que il a dit qu'il ne faut pas tellement attendre les formules comme quoi aquatab, tout ça, tout ça. La population souffre bien sûr. Comment elle-même peut se prendre en charge pour s'épargner de certaines maladies qui sont liées à la consommation d'une eau qui est impropre? Par exemple, ici, les gens qui vous vendent les produits pharmaceutiques comme Aquatab, comme Pure, comme d'autres produits, avec les taux de dollars, ça ne colle pas. Et vous savez qu'ici, chez nous, au Kassai Central, personne n'est informé ou est ignorante. La situation que nous traversons est déplorable. Vous l'avez vous-même suivi.
D'accord.
Et la
Wesley.
Personne est morte hier quand elle est partie attendre l'offre à la mairie. Tout ça, c'est de la souffrance. Mais
d'accord.
Qu'est-ce que nous pouvons aussi faire pour que les conditions de vie et surtout pour que nous rendions notre eau potable au cas où nous sommes désintéressés par le gouvernement provincial que national.
Merci.
C'est ça ma préoccupation.
Merci Wesley Louboya de Kananga. Nous parlons de l'accès à l'eau potable. Comment assurer l'accès à l'eau potable à un plus grand nombre des Congolais? Norbert, vous êtes à Kindu. Bonjour. Bonjour Norbert.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Est-ce qu'on peut dire à Kindu, vous avez aussi vous rencontré des difficultés d'approvisionnement en eau potable?
Non. Ici à Kindu, nous n'avons pas beaucoup d'eau potable. Surtout dans la commune d'Alungouli.
Surtout dans la commune d'Alungouli. Hein. Donc vous n'avez pas oui. accès à l'eau potable. Et comment vous faites pour vous approvisionner?
Nous, nous vivons vraiment de l'eau qui ne sont pas impropres à la consommation.
Et quelle est la question que vous adressez à l'invité Norbert?
La question, je voulais seulement poser la question à notre invité. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de plaider pour les différents barbares de fonds pour qu'ils puissent même venir nous reconstruire les différents puits?
D'accord, merci. Que les différents bailleurs de fonds viennent à Kindu pour construire des puits pour permettre à la population d'avoir accès à l'eau. Docteur Valentin, vous avez la parole. Vous avez suivi les différentes préoccupations des auditeurs.
Oui,
on vous écoute.
Merci beaucoup. Vous savez que l'eau, c'est une denrée très très importante. Je suis même content que le gens soient très au fait attachés à cette émission. C'est une très bonne chose. Mais un petit recadrage. C'est que nous avons dit que les enquêtes EDES donnent 80% d'accès à l'eau potable en milieu urbain. Et en même temps, nous avons précisé que en milieu au fait rural, les enquêtes donnent 37%. Et nous avons même précisé que plus de 60% de la population au fait vit dans en milieu rural. Vous avez compris que le problème de l'eau se pose avec acuité. C'est pas 80% qui donne l'impression qu'effectivement qu'il y a amélioration dans l'accès à l'eau potable. C'est aussi vous ramenez tout cela à l'échelle nationale, le problème se pose encore. Donc à ce moment. Nous n'avons pas dit que à l'échelle nationale il y a 80%. Donc, faut-il consommer l'eau de la pompe? En même temps, l'auditeur a précisé que c'est une eau traitée et au chlore. Mmh. Je pense que ceux qui sont en train de faire ces
et comment ça fonctionne? Il y a une motopompe qui tire l'eau.
Je pense. Nous, en même temps, je suis en train de dire que je suis de la direction nationale de l'hygiène où nous sommes en train de développer depuis un certain temps la stratégie village assaini. Au fait, à ce niveau, si je m'imagine qu'il s'agit effectivement de pompes sur fond d'un forage, ça veut dire que ce sont c'est une stratégie qu'il faut d'abord appuyer et puis en même temps encourager. Si le forage est fait dans des conditions optimales, ça veut dire que l'eau que ça
on,
donne,
on, c'est une eau. On tire l'eau des nappes aquifères.
Bien entendu, en
et fait. C'est une eau potable.
C'est une eau potable. Je pense que avant que ça ne soit donné à la population, il y a des analyses bactériologiques qui sont menées. Si effectivement c'est confirmé que c'est exempt de bactéries, des microbes, d'autres pathogènes, c'est une eau qui n'a pas trop de soucis. Mais écoutez, au fait, la contamination de l'eau, ce n'est pas seulement au lieu du puisage, c'est au fait transporter de manière sécurisée.
C'est la conservation.
C'est aussi
la maison.
C'est aussi bien la conserver, vous avez vu. Mm-hmm. C'est aussi un ensemble de cette éducation pour dire que ce n'est pas seulement quand vous puisez l'eau, quand elle est potable, vous devez l'amener à la maison, ça va rester potable. Donc, il faut être un peu alerte, dire que non, je dois bien transporter mon eau. Le récipient que j'utilise, est-ce qu'elle est-il nettoyé, est-ce qu'il est couvert, tout ça, cette chaîne là, c'est une chaîne sur laquelle il faut viser. Non, il faut aussi qu'on précise, il faut pas que l'on dise ici à la population que rien qu'en prenant de l'eau non potable, on peut développer le choléra, on peut développer la fièvre typhoïde. Et toutes ces maladies sont aussi considérées comme des maladies de vin sale. Vous pouvez consommer une eau potable, mais si vous utilisez
si vos mains ont touché à n'importe quoi et qu'il n'y a pas l'éducation de lavage et le quoi, en fait, l'exercice de lavage de mains et après que l'on qu'on ait été à la toilette, après que l'on ait touché à un objet, c'est laver le main. Si on se lave pas aussi régulièrement le main, on peut contracter. Vous prenez un petit pain sans se laver, sans s'être lavé le main, vous bouffez. Et à ce moment-là, ne dites pas que c'est parce que on n'a pas de l'eau potable.
Voilà. Wesley nous dit qu'à Kananga, il n'y a pas d'eau. Les gens, il y a de l'eau. La régie des eaux ne fournit de l'eau que lorsqu'il y a la visite d'une autorité. Mais après ça, les gens recourent à l'eau des puits. Alors, ils demandent comment éviter les maladies. Et Norbert depuis, dans la, nous dit que dans la commune d'Alungouli, à Kindu, il n'y a pas assez d'eau. Ils n'ont pas assez d'eau, d'eau potable. Donc, il faut recourir à l'eau des puits. C'est presque la même situation. Avant de répondre, on va accueillir Adrien de Lumbashi et Kapala de Moba. Adrien, bonjour. Et quelle est votre préoccupation? Bonjour Adrienne. Adrienne, vous êtes en
ligne?
Oui, bonjour. Quelle est votre
question? Je suis là.
On vous écoute.
Bonjour Monsieur Jody Daniel. Bonjour aussi à notre invité, le docteur Valentin Kasanganaï. L'accès, comme vous l'avez dit, l'accès à l'eau potable reste dans notre pays une problématique d'actualité. Mais moi, je dirais que malgré les problèmes liés à l'accès à l'eau potable que connaissent la ville de Lubumbashi, nous ne pouvons pas quand même nier le travail de la régie des eaux dans bon nombre des communes de notre ville, car il y a aussi des communes ici chez nous, beaucoup même, on peut dire, elles ont donc l'accès à l'eau potable 24 heures sur 24 heures. Mais sur ce, j'aimerais savoir qu'est-ce qui empêche cette entreprise de nous de faire quelque chose quand même, de faire un plus grand nombre, je ne sais pas moi, pour qu'on puisse avoir l'accès d'eau partout donc dans la ville de Lubumbashi. Et sur ce, quelles sont les stratégies individuelles ou collectives qu'une population peut développer pour faire face à cette situation, tant que vous nous avez dit dans l'introduction que certains ménages font recours à des équipements traditionnels plus accessibles tels que les puits et ces population s'expose aux maladies liées à l'eau insalubre. Merci beaucoup, Monsieur Jody.
Bien, merci Adrien de Lubumbashi. Kapala, vous êtes à Moba, nous parlons de l'accès à l'eau potable. Quelle est votre préoccupation? Bonjour.
Bonjour, c'est Jody Kachama. Bonjour, M. Valentin. Je serai vraiment... je vais intervenir d'une façon laconique.
Oui.
J'ai dit, est-ce qu'il revient à la population de chercher comment avoir l'eau potable, ou il revient à l'État de chercher le moyen que la population ait l'eau potable? Pourquoi ça, cette question, monsieur Jody? Parce que comme je suis chez nous à Moba, j'assiste toujours à la régie des eaux qu'a laissé notre colon depuis à l'époque de Belge. C'est la régie des eaux que je suis en train vraiment d'assister ici à Moba. Mais ici, comme moi, moi congolais d'aujourd'hui ici à Moba, je n'ai jamais assisté à la régie des eaux établie par notre gouvernement congolais en place. Maintenant, c'est une question que je me pose. Il revient à nous seulement, la population, de nous inquiéter. Ce n'est pas au gouvernement, ce n'est pas à l'État. Voici, M. Valentin, ma préoccupation que j'avais.
Bien, merci. Nous avons également la réaction de Daniel Kelala Ilunga qui nous a écrit sur la page Facebook du magazine Okapi Service. Il dit que la problématique de l'eau potable n'est pas seulement congolaise, mais aussi mbujimaïe. Ici, en Mbujimaï, la population éprouve des difficultés énormes pour trouver cette denrée des premières nécessités. C'est Daniel Kelala qui nous le dit depuis Mbujimaï. Alors, docteur Valentin...
Oui.
Vous avez parlé, vous venez de le dire d'ailleurs qu'un grand nombre de la population, une grande partie de la population n'a pas accès à l'eau potable. Alors, on ne va pas continuer à se plaindre. Quelles sont les autres méthodes qui se présentent? Vous avez dit tout à l'heure qu'on peut chauffer l'eau à 100 degrés. Ça permet quand même de rendre cette eau potable. Quelles sont les autres méthodes à utiliser pour purifier l'eau?
Oui, au fait... une petite précision, c'est que nous intervenons d'abord comme la Direction nationale de l'hygiène. Et la Direction nationale de l'hygiène a notamment pour attribution, mais aussi l'éducation sanitaire. C'est aussi la promotion des bonnes pratiques. Je pense que lorsque nous nous intervenons, nous sommes en train, au fait, de dire à nos frères et sœurs que regardez, le problème est réel. Mais regardez comment contourner les problèmes. Ici, nous sommes en train de réfléchir ensemble avec nos frères et sœurs pour dire, regardez, le problème est là, mais que faire pour éviter, vous avez vu.
Alors, quelles sont les solutions?
Oui, les solutions sont simples. Nous avons dit que, au-delà, au fait, de l'utilisation du produit chimique, et si j'étais en train de faire allusion, au fait,
au purifiant,
vous avez vu, au purifiant, et le moyen le plus simple. Le moyen le plus simple que nous avons estimé, nous, à la Direction nationale de l'hygiène, même aussi au niveau de notre programme Village Assaini, c'est que nous disons qu'en dehors de purifiant, la méthode la plus simple que nous disons à la population pour ne pas, qui ne demande ni argent, qui demande que la volonté, vous avez vu, après avoir préparé, vous avez un peu de bois de chauffe qui sont restés.
Bouillir l'eau à 100 degrés,
après 30 minutes, vous avez, au fait, une eau qui peut être considéré comme potable, exemple de micro-pathogène. Donc ici, et puis l'avantage que nous avons aussi, c'est que nous sommes au fait en pleine semaine de l'eau, c'est du 21 jusqu'au 26. Ça vaut la peine que la population ait à l'esprit que tout ce que ici, moi je ne viens pas parler comme gouvernement, moi je parle comme service spécialisé et que je donne de bonnes pratiques. Les bonnes pratiques ici, c'est que le problème d'accès à l'eau potable, il est encore réel, mais ce qu'il faut faire, c'est que il faut, au-delà de ce qui peut demander de l'argent, bouillir l'eau, c'est la méthode la plus simple.
Vous avez dit également qu'on peut utiliser un linge propre pour purifier, pour tamiser. Comment ça se fait exactement?
Oui, c'est que lorsqu'on considère que l'eau est trouble, on parle de la turbidité, lorsqu'on considère que l'eau est trouble, et avant de la chauffer, ce qu'on peut faire, c'est que si vous avez au fait un petit habit et propre, vous avez vu, bien nettoyé, et ainsi de suite, on peut mettre fait un récipient et puis vous avez un récipient qui a l'eau, c'est quelque chose de verser un peu
l'eau sur ce linge là,
ça va essayer un peu de d'écarter un peu tous les impuretés,
de retenir les impuretés.
Ainsi de suite, vous avez quand même une eau avec une turbidité acceptable, et c'est une eau que l'on peut soumettre sur le feu, et puis ça va bouillir, et puis on a quand même, au bout de 30 minutes, on a quand même une eau acceptable, exemple de micro-pathogène.
Mais certains disent que si l'eau est trouble, on peut la garder dans un récipient pendant toute une journée et toutes les impuretés vont se déposer au fond et à ce moment-là, on peut l'utiliser.
Génial, parce que lorsqu'on considère que l'on n'est pas en présence d'un habit adéquat, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut laisser l'eau dans un récipient. Les impuretés vont décanter, vont floculer, entre guillemets, ça va floculer. Puis à un moment donné, c'est pas moi, 3, 5, 6 heures après, on peut réverser cette eau dans un autre récipient tout en retenant, au fait, le fond.
Comment retenir le fond, parce que ces impuretés risquent de se mélanger encore à l'eau?
Non, ça veut dire que la physique nous aide de manière que si ce sont des impuretés qui ont un certain poids, vont effectivement floquiler et vont rester au fond du récipient. Et on ne voit pas, lorsqu'on reverse dans un autre récipient, on ne va pas quand même faire un effort pour prendre tout ce qu'il y a comme dans le fond, on doit le faire avec un peu d'intelligence, de manière que l'on recueille un peu l'eau avec un minimum d'impureté.
Comment le faire? Il faut puiser avec un autre. On peut utiliser un gobelet ou puis un autre récipient?
Non, on utilise. Parce que si vous utilisez un autre récipient, vous agitez l'eau. C'est simple, c'est question de tenir. C'est un petit seau de 10 litres, c'est un petit seau de 15 litres. Quand même, un gaillard de 25 ans peut tenir et puis reverser dans l'autre récipient sans trop d'inquiétude. Et puis, nous étions aussi en train de dire que il y a un auditeur qui a parlé au fait de quoi est-ce que c'est à la population? Non, vous avez vu, il faut pas tout attendre au fait de l'État. Vous avez vu, si aujourd'hui quelqu'un tombe malade et il en meurt, c'est 100% d'abord pour lui-même, vous avez vu. Donc nous avons dans les gènes,
faut pas attendre toutes les solutions du gouvernement.
Non, en tout cas malheureusement je ne parle pas au nom du gouvernement, mais je sais en même temps que dans les règles d'hygiène individuelle, ça vous ne pouvez pas quand même vous réveiller le matin sans vous brosser la bouche, sans quand même chercher à consommer une eau et potable pour dire que non, je ne consomme pas. Ici, l'avantage que nous avons, nous, RDC, l'avantage que nous avons, c'est que la pénurie, et nous n'avons pas ce qu'on appelle le stress hydrique. Oh non, il y a l'eau même salubre n'existe pas. Ici, quand même, nous avons l'avantage d'avoir même cette eau-là, bien que non potable, mais que nous pouvons quand même rendre potable. C'est ça l'avantage que nous avons. Dans d'autres pays, il faut même chercher, faire des kilomètres et des kilomètres pour aller chercher même de l'eau sale, vous avez vu. Donc, nous, l'avantage que nous avons, capitalisons d'abord l'opportunité que nous avons d'avoir d'abord cette eau douce, cette eau-là, que l'on peut considérer même non potable, mais alors, que l'Éternel nous a donné quand même ça de l'intelligence, un peu de tact pour un peu essayer un peu de
rendre. Docteur Valentin, est-ce que les eaux des pluies, l'eau recueillie à partir des puits, est-ce que c'est une eau potable?
Oui, je pense que si c'est un puits protégé, vous avez vu, je pense que vous parlez de puits, pas de pluie.
Oui, des puits, bien sûr.
Oui, bien, si c'est un puits qui a été, au fait, creusé dans des conditions normales et qui est protégé, je pense que c'est, si ça répond aux normes, et que les examens bactériologiques réalisés et que le résultat révèle qu'il n'y a rien, c'est une eau potable, il faut la consommer.
Et comment faire pour protéger un puits, hein, pour éviter qu'il ne s'infecte et que l'eau devienne impropre à la consommation?
Non, je pense que c'est un monde de techniciens. Je pense que les techniciens, ils savent ce qu'ils doivent faire. En fait, un puits protégé, c'est un puits construit de manière à ce que l'eau de ruissellement, l'eau extérieure, ne puisse en fait couler dans le puits avec tout ce qu'il y a comme entraînement pour contaminer l'eau qui est dans l'eau. Donc, ça, c'est un monde de techniciens. Les techniciens, ils savent c'est quoi protéger. Protéger, c'est fait faire de manière construite, de manière à ce que ce puits-là, en fait, ne donne pas accès à une eau de ruissellement, une eau extérieure pour, avec tout ce qui est
comme entraînement. Et ça ne doit pas être à côté des toilettes.
Hein. Oh oui, ça ne doit pas être à côté de toilette, il y a des normes pour construire des puits. Nous sommes à 15 mètres et tout ça d'une toilette. Ce sont des normes qui sont connues. Je pense que lorsqu'on veut construire un puits, ceux qui construisent, ils utilisent les normes. Les normes existent au pays. Nous, à la Direction nationale de l'hygiène, nous sensibilisons. Nous avons des normes qui nous sensibilisons.
Docteur Valentin, l'eau des pluies, est-ce qu'on peut la consommer? L'eau qu'on a recueillie sur les toits de la maison, qu'elle est potable?
Vous savez que originellement, lorsque l'eau de pluie vient d'en haut, elle est potable. Mais lorsque ça coule au niveau de la toiture, avec tout ce qu'il y a comme poussière, couches de poussière qui sont au niveau de la toiture, ce ne sont pas des poussières simples, c'est aussi des poussières entremêlées de microbes, et on ne peut pas carrément dire tout de suite que cette eau est de pluie qui a tombé, qui vient de couler sur une toiture. Nous ne pouvons pas dire tout de suite que c'est une eau potable, et encore que ça soit analysé et validé et considéré comme une eau potable.
On va terminer avec Emmanuel qui nous appelle de Guémena. Bonjour Emmanuel.
Oui, bonjour monsieur le journaliste.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à l'accès à l'eau potable?
Oui, je voulais juste poser une question à monsieur l'invité.
Laquelle?
Lorsque j'étais à Zongo, une ville en face de la République centrafricaine, j'ai vu les gens puiser de l'eau qui coule au milieu de la rivière. Ils disaient que cette eau-là est vraiment propre à la consommation. Raison pour laquelle je voulais juste poser cette question à M. l'invité. Est-ce que réellement l'eau qui coule au milieu de la rivière, c'est propre à la consommation ou non? Parce que les gens consommaient et disaient que c'est propre à la consommation.
Bien, docteur Valentin, l'eau des rivières.
Non, ça veut dire que l'eau qui coule au milieu, l'eau qui coule au niveau des rives, faut-il considérer que cette eau elle est, je ne pense pas que ça soit. Lorsque je donne un petit exemple, que quelqu'un qui est dans une embarcation, ça peut être une baleinière et ainsi de suite, et parce que vous savez les habitudes de ces gens-là, ils font tout ce qu'il y a comme sel dans l'eau, et c'est sel qui coule, et ça ne commence pas d'abord par couler aller au fait au niveau des rives, hein, ça commence d'abord par les milieux et à supposer
donc même si on va puiser au milieu de la rivière,
vous n'êtes pas,
cette eau n'est pas toujours potable.
Ça ne donne pas au fait, ça ne vous donne pas de garantie qu'effectivement lorsqu'on prend de l'eau en pleine rivière et l'on est exempt des microbes, je pense que l'eau lorsqu'on la prend comme ça, il faut toujours passer par un processus de traitement. J'ai donné une méthode très très simple, il faut bouillir de l'eau, il ne faut pas attendre tout de l'État. Nous pouvons, dans l'hygiène individuelle, on doit prendre soin de soi-même.
Et ici, là où il y a une source, parfois l'eau sort de la terre quelque part, vous avez une source, est-ce que c'est une eau potable? On peut la prendre directement telle qu'elle?
Non, ça veut dire que la source, oui bien entendu, la source donne une bonne eau et à condition que la source soit aménagée. Vous avez vu, ceux qui sont dans les domaines, ils savent que lorsqu'il y a une source, il faut commencer d'abord par l'aménager. C'est après cet aménagement que l'on peut considérer que cette eau. Et j'ai dit toujours que lorsque on aménage l'eau, on passe toujours, on fait toujours un examen et une analyse de cette eau, parce qu'on ne peut pas quand même donner l'impression que en faisant ce qu'on a fait, que c'est une eau, il faut un peu d'analyse, c'est la petite prudence pour s'y rassurer effectivement que c'est une eau. Voilà pourquoi nous, à la Direction nationale de l'hygiène, nous venons de développer en fait une stratégie, c'est en fait le projet Centre de santé Assainie. C'est aussi une stratégie louable qui vient résoudre encore notre problème. C'est aussi un problème. Vous savez que un malade peut arriver à l'hôpital pour un paludisme et y faire 15 jours. Si vous posez la question, on va vous dire qu'il a développé une autre maladie. Ça s'appelle infection nosocomiale. Vous avez vu.
Oui,
ce qui fait que nous, à la Direction nationale, nous avons dit non, il faut résoudre ces problèmes. Une façon de résoudre le problème, c'est développer une stratégie. C'est le projet Centre de santé Assainie qui vient faciliter l'accès à l'eau. Et savez-vous, monsieur le journaliste, que lorsqu'une femme accouche, a besoin de 100 litres d'eau, vous avez vu, mais passez un peu dans nos maternités, vous avez vu que vous allez vous rendre compte que les problèmes se posent avec acuité. Voilà pourquoi le projet Centre de santé Assainie que nous venons de développer, que je suis en train de piloter comme point focal, va apporter
de l'eau potable dans les hôpitaux.
Dans les hôpitaux, nous sommes en train d'y travailler.
Parce qu'il y a un auditeur même qui nous a dit qu'il y a dans un hôpital il manque de l'eau potable pendant tout un mois.
Non, quelqu'un
nous a écrit sur la page Facebook.
Voilà pourquoi.
C'est des choses qui arrivent.
Ce sont des choses qui arrivent. Voilà pourquoi nous, à la Direction de l'hygiène, nous sommes proactifs. C'est avec aussi l'esprit managériel de notre directeur.
Et docteur Valentin, est-ce que vous savez que dans certains quartiers ici à Kinshasa, l'eau robinet sort avec des matières fécales? On a eu des témoignages comme ça dans nos programmes.
Non, je pense que ça c'est dit. Moi personnellement, j'ai été informé. Comme nous sommes la Direction nationale de l'hygiène, je pense que les services compétents ont réagi pour recadrer le tir. J'étais en train de parler de ce projet qui va apporter de l'eau. Le gouvernement, en même temps, je parle comme service spécialisé du gouvernement, parce que nous, en élaborant notre plan stratégique, plan de développement sanitaire 2016-2022. Le gouvernement, à travers le ministère de la Santé, a réservé un indicateur très important. C'est au fait, en 2020, nous, Direction nationale de l'hygiène, nous devrions, au fait, nous dire autant de formations sanitaires ont intégré le volet eau, hygiène, assainissement. Regardez pourquoi nous disons, à la Direction nationale de l'hygiène, nous sommes aussi très occupés pour, dans le cadre de l'accès à l'eau, même en milieu de soins.
Bien, docteur Valentin Kassanganaï, je rappelle que vous êtes chef de bureau eau à la Direction nationale de l'hygiène. Merci et bonne journée.
C'est moi qui vous remercie.